The 5 to 6 p.m. on the CRTV Radio Network, a presentation of Maureen Wanze Wilai and Larissa Engana at Top Stories.
Au sommaire du 17-18, journée mondiale du don de sang, les banques camerounaises dans le rouge. La demande annuelle estimée à 400 000 poches de sang peine à être comblée. Une anémie que s'attellent à corriger les autorités sanitaires. Et ce 14 juin en tout cas, c'est la sensibilisation qui manque le moins. Le don de sang, un acte altruiste, salvateur et vital. La trame du focus du jour dans le 17-18.
Blood donors in Cameroon have been appreciated for the increase of 160,000 blood packs compared to previous years, though grossly insufficient as Cameroon needs 400,000 blood packs to achieve its life-saving mission. This as Cameroon observes World Blood Donors Day at a time of great need, especially in crisis regions where health officials talk of increasing cases of severe injuries requiring blood transfusion. Focus of the day seizes the opportunity to probe into the hurdles of blood donation in Cameroon.
Tabaski, effervescence dans les chaumières et dans les marchés à deux jours de la fête du sacrifice. La communauté musulmane vibre au rythme des préparatifs de la plus importante célébration de l'islam. Nous prendrons la température de quelques familles. Reportage à suivre dans ce journal.
And in sports, the semi-finals of the Cup of Cameroon 2024 will be played tomorrow in the city of Yaoundé. Some of the second and third tier teams are making waves. Isosa of Limbe and Mintak of the Upper Sanaga Division.
Sport toujours, plus vite, plus haut, plus fort. Les championnats d'Afrique seniors, dames et messieurs d'athlétisme se tiendront du 21 au 26 juin prochain au Cameroun, précisément au stade de Japoma et non plus de Bépanda. Changement de dernière minute confirmé cet après-midi par le président de la Confédération africaine d'athlétisme, Hamad Kalkaba Malboum, était à la rencontre du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, pour prendre la température des préparatifs côté CRTV. C'est tout pour les titres.
5 to 6 p.m. is 16 minutes of news and information about major happenings in the nation. Focus of the day. Sports, world news, in-depth report, investigative news report, the interview, the 5 to 6 p.m. guest, and much more on the radio network of the CRTV.
It is always our pleasure to have you on the CRTV Radio Network, and this is the 5 to 6 p.m. As you heard in our headlines, World Blood Donors Day has been celebrated today with an appeal for more donors to join the train to enable Cameroon meet the 400,000 blood packs target demanded by the World Health Organization. This was during a ceremony chaired by the representative of the Minister of Public Health, Professor Tetanye Ekwem, who thanked voluntary blood donors who have been braving all odds to save thousands of lives. This year's Blood Donors Day is hinged on the theme celebrating 20 years of giving. Thank you, donors. And according to the National Blood Transfusion Center, only 160,000 blood packs have been collected. Let's now listen to the Deputy Director General, Maina Njulde Emmanuel, who begins by praising the crucial role of blood donors in saving lives.
We are gathered today to celebrate our voluntary donors of blood. They are saviors, they are heroes in our society. They are those who are showing us the way to live together in our country. As they are sharing their blood with others, we want to encourage them and to call others who have not yet given their blood regularly to come in and to give also their blood so that we will not lack blood in our blood banks, in our health facilities. We used to face many, many challenges. First one is cultural barriers. There are beliefs around the issue of blood that block many people to give their blood because they think that giving their blood, they will lose their chance or they will lose their family or that blood can be used to some practices that are not good, which is not true. The Ministry of Health and the National Blood Transfusion Center have taken all the measures that every blood that is given is processed in the best way.
Some inhabitants of Douala have converged on Lakentene Hospital to contribute to saving lives by donating their blood free of charge. The exercise this June 14 was organized by the Cameroon Consumers Foundation to mark the World Blood Donor Day. Roselyn Fosa.
On the site of the blood bank at the Lakentene Hospital in Douala, candidates for blood donation scramble to carry out a humanitarian act. Volunteers who answered present to the invitation of the blood donation campaign from a consumer's association have to be submitted through certain procedures. Dr. Christian Medisiki is a medical biologist and head of the clinical biology department at the Douala Lakentene Hospital.
We need to identify you and check if you have already donated blood before. We also look at your age and the last time you donated blood, your blood to verify your hemoglobin, check your blood pressure, and if you are eligible, we collect your blood for 8 to 10 minutes.
The reasons for donating their blood vary from personal experiences to just wanting to contribute to humanity. Meanwhile, the World Blood Donor Day is an exceptional event for the Cameroon Consumer Foundation. Alphonse Aissi Abena is its president.
We have a lot of youth who come here. It is good to make them understand the importance of donating blood at an early age. Cameroon needs 400,000 pints of blood each year, but we barely have 150,000, so the gap is very wide.
Make the gesture that saves is the motto of this year's blood donor campaign at the Douala Lakentene Hospital. Roselyn Fosa, CRTV News, Douala.
Over in the Northwest region, health officials have dispelled the myths related to blood donation, saying donors enjoy free screening for various diseases. The medical staff in the region have highlighted the need for regular blood donation, arguing that on account of the ongoing conflict in the Northwest, there are many severe injuries that require transfusion, and call on potential donors to play their part in saving lives. Here is the report with Eric Langmia.
In Bamenda, many people are still scared of donating blood because of widely held false beliefs.
It's always scary to give your blood and then maybe you hear that it's missing.
I feel more comfortable when I know the exact person in need of the blood.
When you donate blood, it becomes so light, so weak that you can just easily faint. That's my fear.
But medics have dismissed these beliefs, stating that they are myths. The head of the Bamenda Regional Hospital's blood bank, Atabon Fidelis, states that persons who donate blood stand the chance of being screened for free.
We link them to the service that we consult them free of charge. Also benefit from 50% discount of laboratory tests.
Many who have been donating blood have affirmed that donating blood is a healthy practice.
When you donate blood, you renew your system. So those new cells, they build up your system, you become more energized and you become less stressed.
A medical doctor at the Bamenankwe District Hospital, Dr. Lembi Hida Tamwe, recounts circumstances when blood transfusion is imperative.
Some children are born with sickle cell anemia, so throughout their life, they suffer from low blood level. We also have complications in pregnancy and delivery.
The Bamenda Regional Hospital is presently having 95 patients on dialysis, and each of these patients need at least 2 pints of blood every week. Eric Langmia Wufo, CRTV News, Bamenda.
Donnons donc de notre sang chaque année pour sauver des vies. Mesdames, Messieurs, et davantage en ce 14 juin où la sensibilisation a une résonance particulière. Le plaidoyer est porté et mené par les autorités sanitaires qui révèlent une demande annuelle estimée à 400 000 poches de sang et demande pour l'heure inefficacement couverte. Le levier actionné est celui de la sensibilisation de l'opinion sur l'importance de cette cause, mais d'autres leviers, notamment financiers, sont aussi à prendre en compte. Écoutons le président du comité de gestion du Centre national de transfusion sanguine, le professeur Tétanié Ekoué.
Le CNTS lance un appel à toute la communauté internationale, à nos autorités, à qui nous disons toujours « nous avons encore besoin de ressources financières pour avoir du recrutement de personnel, pour avoir des réactifs, parce que le sang, quand il est collecté, doit être encore qualifié. Il faut encore le stocker. Tout cela coûte de l'argent. Et si nous n'avons pas cet argent, le CNTS vous donne l'impression de ne pas être efficace. » Je voudrais donc saisir cette occasion pour remercier toute cette tutelle, notre tutelle technique, le ministre de la Santé, mais aussi tout le secteur privé, L'État à lui seul ne peut pas faire en sorte que la transfusion sanguine réponde aux objectifs que le chef de l'État lui a assignés. Nous avons de grandes sociétés qui peuvent donner un coup de main pour que le CNTS fasse en sorte que les donneurs bénévoles de sang se sentent reconnus et qu'ils voient qu'ils sont véritablement appuyés.
Des propos recueillis par Christine Victoria Penda. Et l'Organisation mondiale de la santé préconise bien de stratégies pour promouvoir le don de sang régulier volontaire sous la coordination du Centre national de transfusion sanguine au Cameroun. Tout le monde, ou presque, peut aider à sauver des vies en devenant donneur régulier. Et quelques donneurs de sang, justement, prélevés ce jour, expriment leur motivation dans ce reportage de Marlise et Nwambarga à Oumou de CRTV Centre.
Siège de la Croix-Rouge camerounaise ce matin, des jeunes comme Stéphane sont venus faire un don de sang volontaire.
J'ai voulu donner de mon sang aujourd'hui pour faire un geste de solidarité envers tous ceux qui en ont besoin. Chacun de nous a le remède, le médicament pour les autres.
Les prélèvements en cours se font dans le strict respect des indications et des contre-indications qui sont d'assurer la sécurité transfusionnelle.
Il faudrait que le taux d'hémoglobine pour la femme soit à 12 et pour l'homme à 14. Plusieurs paramètres comprennent à l'instar de la tension artérielle, le taux d'hémoglobine et le poids.
Stéphane donne de son sang depuis 3 ans, comme de nombreux autres donneurs volontaires et non rémunérés.
Je donne 3-4 fois, donc après ce don, il y aura un autre don avant la fin de l'année.
En moyenne, je donne 3 fois par an. Avec le temps, j'ai compris les enjeux du don de sang volontaire et je me suis un peu plus appliqué.
Les poches de sang recueillies sont traitées et stockées dans une banque de sang pour améliorer ou sauver des vies.
Je découvre le don de sang à travers un cas de maladie de ma sœur. Du coup, je me suis engagé à donner de mon sang souvent, plus tard à donner régulièrement, gratuitement.
Cette 20e édition de la journée du don de sang est l'occasion de dire merci à tous les donneurs de sang. Centre Marlise et Nwambarga Oumou, CRTV.
Écho favorable à l'appel au don de sang à Douala également, où de nombreux volontaires se sont prêtés au jeu à l'hôpital La Quintini. Clovis Tchamabo, reportage.
Sur le site de la Banque du sang de l'hôpital à Quintini de Douala, des dizaines de candidats au don de sang. Des volontaires qui sont soumis à un protocole avec des états préalables. Docteur Christiane Medisike, médecin biologiste, responsable de la Banque de sang.
Il se présente au niveau de l'accueil. Il doit présenter une pièce d'identité pour être répertorié. On vérifie s'il a déjà eu à donner du sang. On vérifie certaines conditions d'éligibilité, telles que l'âge. La suite du processus, c'est de faire une enquête. Il va remplir un questionnaire. On va lui poser certaines questions qui permettent non seulement de l'exclure ou de l'inclure.
Et comme de tradition, les candidats se succèdent sur la chaîne de volontariat.
J'ai eu un cas malheureux dans la famille qui est décédé à cause du manque de sang dans les hôpitaux. C'est ce qui me motive à donner le sang régulièrement pour aider d'autres personnes.
La journée mondiale du don de sang est un événement significatif pour la Fondation camerounaise des consommateurs. Alphonse Aïssi Abena, président de la FOCACO.
Le Cameroun a un besoin annuel de 400 000 poches, mais on arrive à collecter moins de 150 000. Donc, vous voyez qu'il y a un déficit criable. Il y a des patients qui attendent urgentement des poches de sang. Donc, il est question ici de féliciter ces jeunes qui ont compris la cause humanitaire de donner son sang pour sauver des vies.
Faire le geste qui sauve, c'est sous ce prisme que s'est déroulée la journée mondiale du don de sang. Douala Clovis Tchamabo, CRTV.
17h passées de 14 minutes, vous écoutez le 17-18 sur le poste national et dans la suite de l'actualité, Maureen, on a parlé du rayonnement de la diplomatie camerounaise au ministère des Relations extérieures.
That's right, Larissa. United States has congratulated Cameroon for the election of former Prime Minister Philemon Yang as president of the 79th session of the United Nations General Assembly. The congratulations were voiced today in Yaoundé by the United States Ambassador to Cameroon in an audience with the Minister Delegate to the Minister of External Relations in charge of cooperation with the Commonwealth. Christopher John Lamora and Felix Mbayu also exchanged on other issues of national and international concerns. Charles Ebune tells us more.
About 80,000 Cameroonians live in North America, principally in Canada and the United States, and a good number of them joined the Cameroonian Foreign Policy Establishment this Friday, June 7, at the fourth floor of the United Nations office in New York, the seat of the organization. Their presence here at the banquet hall of the United Nations headquarters is occasion for a vote of appreciation for the election of one of theirs, Philemon Yang, as the president of the 79th session of the United Nations General Assembly come September. The lone speech of the day for this traditional ceremony is delivered by the personal representative of President Paul Biya, External Relations Minister Mbelambela. The speech contains two messages. One, to thank the whole of Africa for endorsing the candidacy proposed by Cameroon, and two, to thank the other regional groupings at the United Nations who unanimously believed in the candidacy of Cameroon. To celebrate the election of former Prime Minister Philemon Yang, the gathering is punctuated by a select of musical genres from Cameroon. Together with the Cameroonian foreign policy official team in the hall, Cameroonians in North America, principally business people, students, and other diplomats, hailed this unique moment as a good time to brand Cameroon worldwide.
Environment stakeholders in Cameroon have been urged to identify barriers which impede access to renewable energies and to propose innovative solutions to address them. The call was made by the Secretary General of the Ministry of the Environment, Protection and of Nature and Sustainable Development, Professor Paul Chawa, in Yaoundé during while presiding over the opening ceremony of a multi-stakeholder dialogue on renewable energies organized by the Pan-African Climate Justice Alliance. Details with Sam Lingam.
Statistics released by the World Bank in 2023 indicate that less than 50% of Cameroonians have access to regular energy supply, a situation exacerbated by climate change effects which impede the optimal functioning of hydropower dams in the country. Yet Cameroon can boast of various renewable energy potentials which, if well developed, can positively transform the living conditions of the population. A raison d'être of a dialogue organized by the Pan-African Climate Justice Alliance to brainstorm on strategies for a better development of renewable energies, as Dr. Augustin Jamshi explains.
We have to look at the imperative of renewable energy to build our resilience, our economy, and our development.
The dialogue is bringing together various stakeholders, including policymakers, civil society organizations, farmers, women, and the government, with a major focus, as Dr. Augustin Jamshi indicates.
It's going to be sanctioned by a policy brief that will be presented to parliamentarians and the policymakers of this country, so that Cameroon will be integrating this importance of access to energy for development in a very constrained climate context.
Speaking during the opening ceremony of the dialogue, the Secretary General of the Ministry of the Environment, Protection of Nature and Sustainable Development, Professor Paul Chawa, saluted the initiative of the Pan-African Climate Justice Alliance, which he said is broadly contributing to educate everyone on the effects of climate change in order to find lasting climate change adaptation methods.
19 minutes past 5, you're listening to the 5 to 6. And Larissa, we continue. A project on financial governance has been launched today in Yaoundé.
Il s'agit principalement du projet d'appui à la gouvernance financière, désormais sur les rails, en tout cas pour ce qui est de sa troisième phase. La toute première session du comité de pilotage s'est tenue cette mi-journée sous la conduite du ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux. Assainissement du secteur financier et efficacité dans la gestion des finances publiques sont les objectifs à réaliser par cette initiative au cours des 4 prochaines années. Toussaint Bum, Ania nous en dit plus.
La phase 3 du projet d'appui à la gouvernance financière se situe dans la continuité de l'amélioration des finances publiques au Cameroun, avec notamment l'opérationnalisation du compte unique du Trésor qui permettra de consolider les fonds des entités publiques et optimiser la gestion de la trésorerie de l'État. Sophie Boumson, coordonnatrice de l'unité de gestion du projet.
Rendre effectif ce compte unique en renforçant l'appropriation par les parties prenantes de ce nouveau modèle innovateur dans tous les pays de la sous-région.
Autre axe majeur du projet d'appui à la gouvernance financière, la maîtrise des risques budgétaires des organismes publics pour mieux suivre, mieux contrôler et mieux piloter les subventions et autres deniers publics mis à leur disposition par l'État.
Nous allons véritablement travailler pour améliorer la gouvernance par le ministère des Finances de ces entités-là, en essayant de nous capaciter nous-mêmes à mieux suivre ces entités et à leur donner la place qu'elles ont à leur.
Il sera donc question pour l'État de retrouver des marges de manœuvre qui vont contribuer au maintien de la stabilité macroéconomique et au financement des investissements porteurs d'une croissance économique inclusive et orientée vers le développement durable. La phase 3 du projet d'appui à la gouvernance financière est dotée d'un budget de 4 milliards de francs CFA et va s'exécuter au cours des 4 prochaines années.
Et le ministre des Finances porte à la connaissance des agents publics dans le souci de leur faciliter l'accomplissement de leur obligation déclarative annuelle au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il est mis à leur disposition un bulletin de solde annuel récapitulatif de leurs gains et retenues fiscales pour le compte de l'exercice 2023. Ce bulletin de solde annuel récapitulatif est consultable sur la plateforme électronique e-bulletin à l'adresse www.ebulletin.minfi.cm. Et l'application Ngomna, téléchargeable à partir de Play Store ou d'App Store. S'agissant des salariés du secteur privé et des entités parapubliques, le ministre des Finances invite les employeurs de ces derniers à mettre à leur disposition un bulletin de paie annuel récapitulatif pour l'année écoulée. Le ministre des Finances rappelle enfin que la date butoir de souscription de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'exercice 2023 est fixée au 30 juin 2024. Un dispositif d'assistance en ligne et à distance est mis en place à travers le centre d'appel téléphonique de la Direction générale des impôts numéro 8200 et la plateforme électronique Help Desk accessible à l'adresse www.support.harmonie2.cm. Le ministre des Finances compte sur le civisme de tous. Déploiement des énergies renouvelables au Cameroun à présent. La question mobilise depuis ce matin à Yaoundé, gouvernement, société civile, secteur privé et partenaires au développement. Pour devenir une économie émergente en effet et à résilience climatique durable, le Cameroun doit fournir un approvisionnement énergétique stable et abordable. Voilà qui constitue le centre des travaux. Daniel Sopo.
En 2013, seulement 18% de la population avait accès à l'électricité au Cameroun et 60% de la capacité installée reposait sur l'hydroélectricité, pourtant vulnérable aux effets saisonniers et aux changements climatiques. Ces données de la Banque africaine de développement montraient la nécessité de recourir aux énergies renouvelables. Professeur Paul Tchawa, secrétaire général au ministère en charge de l'environnement.
Faire en sorte que nous quittions progressivement les énergies fossiles sans compromettre, sans ralentir notre marche vers le développement et que nous maintenions la cadence dans le sens de la SND 30 en recourant aux énergies renouvelables. Le Cameroun est richement doté, l'éolien sur les pentes du Mont Cameroun, entre autres, le solaire, la biomasse et l'hydroélectricité.
La marche vers le développement du pays implique que tous les acteurs regardent dans la même direction, que le cadre institutionnel et réglementaire soit approprié.
Il s'associe l'expertise de l'ONAT et d'autres acteurs pour mettre sur pied un document synthétique clair permettant aux députés, aux sénateurs de discuter sur une base plus équilibrée avec le gouvernement quand il s'agit de traiter de cette question.
La rencontre facilite le dialogue et l'échange d'idées, permet d'identifier les obstacles et les catalyseurs de l'intensification de l'accès aux énergies renouvelables, proposer des solutions et des stratégies innovantes pour y remédier.
L'on veut donner l'opportunité aux personnes en situation de handicap d'accomplir leurs devoirs citoyens en tant qu'électeurs ou en tant que candidats à un potentiel scrutin. L'objectif est porté par la plateforme inclusive des personnes handicapées du Nord qui, ce jour à Garoua, a procédé à l'inscription de plus de 100 personnes handicapées. C'était à la commune de Garoua 3e, inscription sur les listes électorales. Reportage Arlequin Swaibou.
La mission de sensibilisation sur les droits des personnes handicapées et leur participation à la vie politique et publique, couplée aux inscriptions sur les listes électorales dans les communes de Yaoundé 6e, Ngaoundéré 1er, Bertois 1er et Garoua 3e, est assignée aux conseillers municipaux, aux comités de développement, aux organisations chargées des personnes handicapées. Digano G. Jackson, chef du village de Sangerepol.
Notre rôle, c'est de sensibiliser les handicapés à s'inscrire massivement sur la liste électorale.
À Boclé, dans la commune de Garoua 3e, plus de 100 personnes handicapées ont été inscrites sur les listes électorales. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la mairie de Garoua 3e. Youssoufa Dodo Mouaman, délégué régional de la plateforme des personnes handicapées du Nord.
Partout, on parle d'inclusion. Pour être inclus, il faut aussi entrer dans le cercle de décision. C'est d'abord un bon citoyen, c'est de participer au vote, à tout le processus électoral.
La participation des personnes handicapées au processus démocratique local est un droit. Garoua, Arlequin Souaïbou, CRTV.
En religion, plus que 48 heures et ce sera la célébration de la fête de la Tabaski. En attendant le grand jour, l'heure est à la fièvre des préparatifs. La fièvre des préparatifs monte dans les marchés notamment ou encore dans les foyers. C'est le branle-bas général. Landry Ndanga, reportage.
Des odeurs épicées envahissent l'espace. Des brochettes sur le grill. Bienvenue au 50-50. Communément appelé ministère du Soya au quartier Briqueteria Yaoundé. Ici, Aliou a pris des dispositions pour satisfaire ses clients. Ce dimanche, jour de célébration de la Tabaski.
Il y a la viande beaucoup, même clients quand ils veulent manger. La place là, ça va remplir, mais c'est pas commandé seulement.
À quelques mètres se trouve Amadou.
Il y a les avions, les bœufs, il y a les avions, les motos. Tu achètes un deux et un fois.
Le marché central de Yaoundé, l'ambiance est toute particulière. Dans ce supermarché où s'arrachent des accessoires de cuisine, au grand bonheur du gérant, bien connu dans le milieu artistique.
Je suis en train de les offrir des petits bols pour la bouillie. Je suis en train de baisser le prix des assiettes, des marmites, des cuillères pour que cette fête soit meilleure pour les musulmans.
Subjugués, les clients ne tarissent pas d'éloges.
Je suis satisfaite. J'ai pris 100 plats avec 100 verres, 100 couchettes. Je suis venue pour acheter la cocotte minute, la marmite chauffante, les plateaux.
Ici comme partout ailleurs, les clients se ravitaillent en quantité et l'on n'attend plus que dimanche pour se régaler.
Faut se lever tôt, mon ami. Wayaï, wayaïoui.
The Muslim community shall this Sunday, June 16, 2024, celebrate the Feast of the Tabaski, a highly anticipated event for all the faithful who are busy doing last-minute preparations. The sheep market in Yaoundé has experienced a boom 2 days to the celebration of the feast. Vendors are complaining of low sales but hope things get better to allow them finish their stock before the feast day. Arthur Fuzer visited some sheep markets in Yaoundé and compiled the following report.
At the sheep section of the Witse marketplace in the Yaoundé 2 subdivision, the counters are filled with sheep of different sizes and prices. Though available in huge quantities, the vendors are yet to make brisk business 2 days to the celebration of the Feast of Tabaski.
La fois passée, ça passe comme ça, mais cette année-là, jusqu'à là, il y a des gens qui n'ont même pas vendu même des moutons. Il faut que les clients viennent vite avant le temps.
The situation is not too different at the Vogada market, where some few customers came to buy to avoid last-minute preparations. To them, the sheep is vital for the Tabaski rituals.
It is very interesting, even for the prayer and the belief. So it's a tradition, and we try to stick to it. It's always advisable if you have some space in your home to buy maybe 1 week before, it can be cheaper.
Despite the timid atmosphere at the markets, the sheep vendors in most markets in Yaoundé are optimistic about better sales before Sunday, the day of the feast.
Over in the littoral region, preparations are underway to celebrate the Feast of the Ram. Tellers are doing finishing touches on their customers' dresses to ensure work is complete on time to enable them celebrate in grand style. The effervescence is equally gaining steam in aesthetic centers where women are making themselves beautiful in preparation for the celebration on Sunday. Gladys Atemba Techuma Banla tells us more.
Business is at its peak in tailoring workshops as tailors work hard to satisfy their customers. In some of the workshops visited, customers are anxiously waiting to check if their dresses are already ready. Meanwhile, due to time and financial constraints, some Muslim faithful like Joseph Damda could not buy their fabrics early enough. The only option now is to buy a ready-made dress.
My wife had already bought for her and for children, so I'm the last one to get this outfit for the feast.
One of the the seamstresses, Likoli Priska explains that she and her team are working extremely hard to finish a pile of work before the feast to satisfy their clients. We are ready to satisfy our customers. We are having some difficulties because some customers brought their fabrics late. That notwithstanding, their dresses will be stitched on time. My collaborators are at work. The designs of the dresses displayed in most tailoring workshops in Douala vary from wrapper and blouse for women and the three-piece gandora, Monda wrap and senator for men. In the meantime, the effervescence is gradually gaining steam in beauty institutes as women are already showing up to do their hair and the traditional makeup, notably Hausa nail polish and body designing. Gladys Atemba Chechuma Banla, CRTV News, Douala.
The Ministry of Finance informs all public servants that to facilitate the annual filing of their personal income tax revenue returns for the fiscal year 2023, a consolidated payslip detailing earnings and tax withholdings has been made available. The payslip can be accessed through the online platform eBulletin via the address 3w.ebulletin.minfi.cm or the Ngamna mobile application, which is available for download on both the Play Store and App Store. Employers in the private sector and parastatals are also encouraged to provide their employees with a similar annualized payslip that summarizes earnings and deductions for the past year. The Minister of Finance reminds all taxpayers that the deadline for submitting their personal income tax declaration for the fiscal year 2023 is June 30, 2024. A dedicated support system is available to offer online and remote assistance. Taxpayers can contact the Tax Directorate's call center at 8200 or access the online help desk at 3w.support.harmony2.cm. The Minister of Finance counts on the compliance of all. Cameroon joins the African continent to commemorate the 34th edition of the Day of the African Child, DAC, on June 16, 2024, under the theme Education for All Children in Africa, The Time is Now. African states are concerned about the well-being of their children and the future of the continent. Reasons why? It is a question of pausing to take stock of the situation of violation of rights of the child and taking appropriate measures to ensure the well-being of children. This day equally serves to raise awareness on the continuous need for improvement of the education provided to African children. The main objective of this edition is to mobilize the national and international community around the need to identify the challenges to be met regarding the realization of the right to education in Cameroon through an assessment of the progress made since 2014. Festivities to mark the celebration of this edition will be presided over by the Minister of Social Affairs, Madame Pauline Irengene, on Wednesday, June 19, 2024, at the Esplanade of the Yaoundé 7th Council.
Le Cameroun se joint au continent africain pour commémorer la 34e édition de la Journée de l'enfant africain le 16 juin 2024 sous le thème « L'éducation pour tous les enfants en Afrique, l'heure est venue ». Les États africains sont préoccupés par le bien-être de leurs enfants et l'avenir du continent. C'est pourquoi il s'agit de prendre le temps de faire le point sur la situation de violation de leurs droits ainsi que les mesures appropriées pour assurer leur bien-être. La journée sert également à sensibiliser sur la nécessité continue d'améliorer l'éducation dispensée aux enfants africains. L'objectif principal de cette édition est de mobiliser la communauté nationale et internationale autour de la nécessité d'identifier les défis à relever en matière de réalisation du droit à l'éducation au Cameroun à travers un bilan des progrès réalisés depuis 2014. Les festivités marquant la célébration de cette édition seront présidées par la ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné, le mercredi 19 juin 2024 à l'esplanade du Conseil de Yaoundé 7e, à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 7e. La ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Ketia Cortes, pour sa part, informe l'opinion publique qu'en raison d'un agenda chargé, la visite de travail qu'elle comptait effectuer dans les régions du Nord et de l'extrême Nord du 17 au 20 juin 2024 est reportée. Les autorités administratives locales et les responsables des services déconcentrés du MINDU sont, en ce qui les concerne, appelés à rapporter toutes les dispositions prises à cet effet. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, CEDEC, informe les établissements de crédit détenant les fonds et ou valeurs dévolus à la CEDEC, conformément à la loi du 14 avril 2008, que la date limite de transfert fixée par le décret du 1er décembre 2023 est échue depuis le 31 mai 2024. Le directeur général tient à féliciter tous les établissements en crédit citoyens qui se sont conformés aux lois et règlements de la République du Cameroun en transférant les fonds et valeurs à la CEDEC. Leurs efforts et engagements démontrent clairement une volonté de faciliter le processus d'opérationnalisation de la CEDEC. À l'inverse, le directeur général Richard Evina Obam rappelle aux établissements de crédit retardataires qui font preuve de résistance et d'un civisme en évoquant des arguments spéciaux pour contourner les lois et règlements de la République qu'ils s'exposent délibérément aux sanctions prévues par la réglementation. Par conséquent, le directeur général invite les établissements de crédit réfractaires à procéder sans délai au transfert. À défaut et fort du privilège du trésor dont elle jouit, la CEDEC procédera aux vérifications ainsi qu'aux audits prévus par la législation et réglementation en vigueur et enclenchera l'action en recouvrement forcé par toutes les voies de droit. Le directeur général de la CEDEC reste déterminé à mettre en œuvre cette réforme importante pour la modernisation des finances publiques et le financement du développement économique du Cameroun en droite ligne des prescriptions du président de la République, Paul Biya.
The Director General of the Deposits and Consignation Fund informs credit institutions holding the funds and all securities vested in the CEDEC in accordance with law of 14th April 2008 that the transfer deadline fixed by decree of the 1st of December 2023 expired on the 31st May 2024. The Director General wishes to congratulate all the credit institutions that have shown a spirit of citizenship and complied with the laws and regulations of the Republic of Cameroon by transferring funds and values to CEDEC. Their meaningful efforts and commitment clearly showcase a volition to accompany and facilitate the process of making CEDEC operational. On the other hand, the Director General reminds late credit institutions who continue setting breaks by raising specious arguments to circumvent the laws and regulations of the Republic that they deliberately expose themselves to the penalties provided by the regulations. That is why the Director General calls on the credit institutions that are still reluctant to make the due transfers to do so without any additional delay. If they fail to do so, CEDEC will, by virtue of its treasury's privileges prerogative, carry out the required and prescribed audits provided by the current legislation and regulation and subsequently will initiate the compulsory recovery actions using all legal means. The Director General of CEDEC remains unfazed and committed to implement this important reform for the modernization of public finance and the financing of economic development of Cameroon in line with the prescriptions of the head of state, His Excellency Paul Biya.
Enfin, dans nos communes, la session ordinaire du conseil municipal consacrée à l'examen des comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2023 vient de se tenir à Ayos en présence du préfet d'Union et Fumu, François Franklin et Tapa. Les conseillers municipaux de la commune d'Ayos ont voté à l'unanimité et à la majorité absolue les comptes de 2023 portés par le doyen du conseil, M. Patrice Mbassala. Les conseillers ont félicité l'exécutif conduit par Paul Ndongobik, maire de la commune d'Ayos, pour la qualité des documents de travail, la pertinence des choix des investissements et l'exécution satisfaisante des projets contractuels.
Écoutez le 17-18, toute l'actu en direct.
17h passé de 39 minutes. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Vous écoutez le 17-18 rendu à sa partie magazine. Toute une journée pour rappeler les vertus du don de sang, geste salvateur, vital, altruiste. Le sang est une bouffée d'oxygène en effet utile aux soins de santé et objet pluriel qui garantit le succès de différents actes médicaux et chirurgicaux complexes, d'où la nécessité d'avoir des donneurs volontaires réguliers. Une fois collecté, il faut encore traiter le précieux liquide, le conditionner et le stocker. Toute chose qui explique l'intérêt d'un centre national de transfusion sanguine. Le Cameroun dispose d'une structure pareille. Retour sur ses missions dans le focus du jour, porté ce vendredi par Bertrand Osomba.
As Larissa said, as the world commemorates the milestone of the 20th anniversary of blood donation and its impact on the lives of patients, focus of the day today seizes the occasion to address challenges. Bertrand Osomba is here with us for insights. Good evening, Bertrand.
Good evening, Maureen.
Let's begin by understanding the importance of blood donation.
Well, Maureen, blood is the most precious gift that anyone can give to another person. And naturally, a decision to donate blood can save a life or even several lives, especially if the donated blood is separated into its components, red cells, platelets, and plasma, which can be used individually for patients with specific conditions. A transfusion of O negative red blood cells can be given to anybody in an emergency, but it is better to match the exact blood group to avoid serious reactions. That is why everybody is urged to know the specific blood group he or she belongs. Maureen.
But how safe it is? Are blood transfusion centers an absolute guarantee for safety in blood transfusion operations?
Well, Maureen, in the realm of blood transfusion organization, the fundamental structure overseeing blood collection, component preparation, storage, and distribution within a confined geographic area is a blood transfusion center. Adherence to stringent protocols is imperative for all facets of the process, including blood collection, component preparation, storage, and distribution to ensure operational efficiency. Moreover, the meticulous execution of procedures within these centers is paramount in upholding a satisfactory level of security. While these centers strive for precision, occasional minor errors may occur, albeit deemed inconsequential. Ultimately, blood transfusion centers operate with the primary objective of promoting the well-being of the recipients through their meticulous practices, Maureen.
Yes, Bertrand, what exactly is the relevance of blood transfusion advocacy in a day like this?
Demand exceeds supply, and blood services face the challenge of making sufficient blood available while also ensuring its quality and safety. So this day calls for action, motivating more individuals to join the global movement of blood donation and to share best practices and lessons learned, and highlighting the continuous need for regular unpaid blood donation to achieve universal access to safe blood transfusion, Maureen.
We won't stop sensitizing the population on the importance of blood donation. Bertrand Osomba, thank you very much for coming on the 5 to 6.
Le centre hospitalier universitaire de Yaoundé couvre plus de 1800 poches de sang par an, avec plus de 50% de donneurs bénévoles. Et pour le chef service de la banque de sang de cette formation hospitalière, la commémoration du 20e anniversaire de la Journée mondiale du don de sang est l'occasion de rappeler à la communauté nationale et internationale l'importance de ce geste crucial qui sauve des vies. Il faut au préalable disposer du sang en qualité et en quantité suffisante pour satisfaire les besoins des patients. Le professeur Tayou répond aux questions de Marie-Claire Messier-Kobena.
Bon après-midi, professeur Tayou.
Bon après-midi.
Le Cameroun célèbre ce vendredi la journée mondiale du donneur de sang pour le chef service de la banque de sang au centre hospitalier et universitaire de Yaoundé que vous êtes. Quelle est la symbolique d'une telle journée?
Alors, le Cameroun célèbre 20 ans de dons de sang bénévoles comme tous les autres pays du monde. Et ça représente en réalité l'évaluation au jour d'aujourd'hui du parcours du don de sang bénévole dans le monde et au Cameroun aussi. Je rappelle que nous avons commencé l'approvisionnement bénévole du sang au Cameroun depuis très nombreuses années, mais aujourd'hui, nous, lorsqu'on fait une évaluation des très importants besoins en approvisionnement dans notre pays. Donc, cette célébration, c'est non seulement pour faire la mise au point, mais c'est surtout pour aussi voir dans quelle mesure on peut augmenter cet approvisionnement dans notre pays.
Alors, professeur, comment se porte la banque de sang du CHU en termes d'influence? Est-ce qu'il y a des donneurs réguliers?
Oui, la banque de sang du CHU de Yaoundé couvre ses besoins. Nous estimons au CHU de Yaoundé un besoin de 1800 poches de sang par an. Nous couvrons nos besoins et notamment avec plus de 50% de donneurs bénévoles. Mais je pense que les besoins restent encore importants parce que ce n'est pas que les malades du CHU de Yaoundé qui demandent du sang dans notre banque, mais c'est aussi les malades des hôpitaux environnants. Ce qui fait que si on prend les choses de façon globale, nous sommes déficitaires pour l'approvisionnement de l'hôpital, mais aussi des différents dispensaires et autres hôpitaux des districts qui nous environnent.
La sécurité transfusionnelle est une priorité. Quel est le mécanisme mis en place pour assurer cette exigence de l'OMS?
Il faut effectivement disposer du sang en qualité et en quantité suffisante pour les malades qui sont dans le besoin. Et les mécanismes que nous mettons en place, c'est d'un côté de maximiser la sensibilisation de la population, d'éduquer la population et recruter les donneurs de sang pour qu'ils viennent donner du sang et couvrir dans les besoins d'un côté. De l'autre côté, c'est de réduire les pertes, c'est-à-dire utiliser de façon rationnelle les produits que nous avons collectés auprès des populations.
Alors, professeur, avoir une poche de sang en urgence reste un problème dans les formations sanitaires. Comment répondre efficacement à ce besoin pour sauver des vies et satisfaire les patients?
Ce qu'il faut faire, c'est avoir un bon programme d'approvisionnement très efficace auprès des populations. Cela veut dire qu'il faut mettre en place un plan d'information et d'éducation des populations, mais aussi aller vers ces populations éduquées, pouvoir faire le recrutement et la collecte de sang. Parce que des personnes vivant dans notre population, on le sait, sont sous-éduquées, elles ne connaissent pas ce que c'est que le don de sang, elles ont parfois des obstacles dans la compréhension de ce que c'est que le don de sang. Donc il faut les éduquer, d'une part, mais aussi se déplacer vers eux au moment où elles sont éduquées pour collecter ce sang. Lorsqu'on a fait cela, on pourrait couvrir les besoins en approvisionnement.
Être donneur de sang volontaire et de façon régulière, ce n'est pas une culture au Cameroun.
C'est ça, justement. Ce n'est pas une culture. Nous avons encore beaucoup d'obstacles en termes de connaissances, même des obstacles culturels. Des gens qui ont des appréhensions, qui pensent que le don de sang est dangereux, qui pensent qu'on véhicule les maladies à travers le don de sang ou encore qu'on perd une partie de sa vie en donnant le sang, ce qui est totalement faux. Donc, il faut vraiment briser ces barrières, briser ce manque d'éducation et ces mauvaises conceptions à travers l'éducation. Nous, au CHU de Yaoundé, nous disposons de deux stratégies. La première, c'est de travailler en association avec les associations de donneurs de sang et les associations œuvrant pour le don de sang, notamment le Club 25 ou Lifeline ou encore la FECADOBES, qui sont des associations qui descendent sur le terrain de façon bénévole pour sensibiliser et éduquer les populations. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est lorsque le donneur est arrivé dans notre banque de sang, nous profitons lors du don de sang pour l'éduquer et surtout aussi les donneurs familiales pour le convertir en donneur bénévole en utilisant donc des moyens comme les dépliants, comme les vidéos, des petites projections qui leur permettent de comprendre les bien fondés du don de sang.
Professeur Tayou, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, madame.
The Southwest regional capital, Boya, has over the past decade experienced the near absence of commercial motorbikes. Initially, there was a partial ban on commercial motorcycles, particularly in the town's urban center. However, in recent years, this has evolved into a total restriction on their operations within Boya as the socio-political crisis in the region escalated. While the resolution by officials to maintain Boya as no-go area for motorcycle commercial motorbikes remains strong, Achieving complete compliance has proven to be a hard nut to crack. Many residents, especially those living in the suburbs, continue to rely on the services of commercial motorcycles despite the ban. From Boya, Olivia Mbwaye Ambai tells us the story in details.
This is Mile 17, the region's busiest bus station, yet no commercial bike is in sight. Boya, the southwest regional capital, stands out for the noticeable absence of commercial motorcycles, commonly known as Okada, around its urban center. This is unlike most other towns in the country, where these two-wheelers constitute a major means of urban transportation. The restrictions on the activities of commercial motorcycles in Boya have been a controversial issue since they were first instituted around 2011. At the time, the then mayor, now Senator Mbila Mokichaus, took the rare step of prohibiting the circulation of these motorcycles on the town's major streets, citing various concerns.
I foresaw how criminals were going to exploit the activity. I then sat with the municipal councillors. I told them motorbike riders are going to pose a huge problem to our community. That is how I swung into action and ordered them to stay away from the urban periphery in Boya. I used to comb the university area. Why? Because as a municipal authority, I had the responsibility to protect and ensure the harmonious living together of these students. Day after day, we got complaints. Bike riders seizing their bikes and fleeing with them. They ride without identity. The wards were growing with accident cases from bike riders, and they were not contributing to the economy of the town by way of paying taxes.
A decision which was generally considered unpopular at the time.
The head of state, His Excellency Paul Biya, had at the time authorized the use of motorbikes as a means of transportation around the country. When I did that, the SGO at the time gave me a query for undermining a presidential order. I explained that the presidential order says regularize and allow motorbike riders to be useful in the community. In this case, I didn't find them useful in Boya.
Today, the ban still stands and has over the years been reinforced, from a partial ban to more stringent measures, including an outright prohibition of the activity in Boya, a move the second deputy mayor of Boya, Masoko Edward Mutuwe, says was provoked by the rising wave of insecurity in the town caused by the socio-political crisis.
When the socio-political crisis ensued, the activity was a menace to the population, and the decision that was taken was kind of draconian. And at one point, we said no to motorbikes in general because some of the misguided citizens use it to facilitate their gruesome actions.
While Boya is reputed for having successfully staged a war against commercial motorcycles on its major road, keeping them completely off the streets remains a hard nut to crack for the officials, especially in the periphery like Sanpit, Bumaka, Moya, and other new layouts where many continue to use their services due to bad roads. While acknowledging that the sector is an important source of employment and livelihood for many families, Masoko Edward Mutuwe says the socio-political situation in the region remains fragile and nothing can be left to chance. He states categorically that commercial motorcycles are not allowed in the town of Boya, and anyone doing so is simply contravening the regulations in force.
Le temps des sports dans le 17-18. Samuel Billon nous a retrouvés dans ce studio. Bon après-midi.
Bon après-midi, Larissa. Bon après-midi à tous.
Athlétisme, championnat d'Afrique du 21 au 26 juin, ce sera plutôt au stade de Japoma.
Alors, c'est un changement de site approuvé par la Confédération africaine d'athlétisme. Aussitôt, la décision est prise. Le président de l'instance continentale, Hamad Kalkaba Malboum, a sollicité et obtenu la rencontre avec Charles Ndongo, le directeur général de la CRTV. Rencontre cet après-midi au 11e étage de l'immeuble siège en Baladeux. Hamad Kalkaba Malboum, président de la Confédération africaine d'athlétisme.
À ce moment précis, nous ne pouvons parler que de la tenue à Douala du 21 au 26 juin des championnats d'Afrique senior d'athlétisme que la CRTV va couvrir et distribuer au monde entier. Il était temps que nous puissions en parler parce que quelques changements sont intervenus dans le processus d'organisation, notamment en termes de lieu d'accueil de cette compétition. Initialement prévu au stade de Pepanda, finalement c'est le stade de Japoma qui va accueillir la compétition pour des raisons de force majeure. Ce changement de lieu aussi commandait que je vienne parler de cela avec le directeur général de la CRTV pour les dispositions techniques qui peuvent peut-être changer si les conditions de Bepanda étaient déjà prises.
Alors face aux exigences de performance de haute qualité en termes de production du signal, de retransmission et de couverture médiatique de ces championnats d'Afrique, le directeur général de la CRTV rassure, l'office sort l'artillerie lourde pour ce qui est des ressources humaines sur le plan éditorial et technico-artistique, mais aussi pour ce qui est des équipements de production à la hauteur des standards en la matière. Hamad Kalkaba Malboum.
C'est le haut niveau. Nous venons de suivre les championnats d'Europe d'athlétisme qui ont été organisés à Rome du 7 au 12 juin. Et ce qui reste maintenant pour le Cameroun, c'est la plateforme qu'il faut offrir au monde de l'athlétisme à quelques semaines des Jeux Olympiques. Et tout le regard du monde de l'athlétisme est tourné vers le Cameroun aujourd'hui. Donc c'est exigeant au niveau de la production, de la retransmission, des équipements à utiliser. Tout cela doit être pris en compte très sérieusement. Et je pense que ma rencontre avec le directeur général de la CRTV a donné les perspectives du succès de cette opération. Il y a déjà 48 pays qui ont confirmé leur participation, mais le gros contingent viendra d'Éthiopie, d'Afrique du Sud, du Kenya, probablement du Nigeria et peut-être de l'Égypte.
The president of Confederation of African Athletics says all necessary measures has been put in place for the successful organization of the African Athletic Championship in Douala. Hamad Kalkaba Malboum was speaking in Yaoundé today after a meeting with the Director General of CLTV, Charles Ndongo, to ensure the smooth coverage of the event. Athletes from more than 40 countries will take part in the competition that will run from the 21st to 26th of June at the Japoma Stadium in Douala instead of the Bepanda Stadium that was announced earlier. The president of the Confederation of African Athletes says the championship will reduce the best or will produce the best athletes to represent Africa in July's Olympic Games in Paris, France.
First of all, I would like to say that yesterday I called in urgency council meeting of the CAA because there is change in the site of the competition. Previously, we planned to have the event in Bepanda Stadium. Unfortunately, that solution is not possible now, so we have to remove the event to Japoma. So I wanted to inform the Director General of the CRTV, who is one of the main stakeholders in the broadcasting of the events. And then it is important for me also to mention that CRTV is the right holder of the event, and the national TV that will give free to the Cameroonian the event. But Africa is also expecting the broadcasting of that event. So we need to do it professionally.
Hamad Kalkaba Malboum. Samuel, parlons de catch à présent. Le Cameroun à la conquête du tout premier titre africain des mi-lourds en dames.
Rendez-vous historique ce samedi à Lagos au Nigeria. Le tout premier championnat d'Afrique de catch féminin catégorie des mi-lourds se dispute. La Camerounaise Poneva Dex, trois fois championne du Cameroun, face à Swift Jenna, quatre fois champion du Libéria, deux icônes du catch féminin africain, le catch plus beau sport de l'histoire de l'humanité, pleine de grâce et de délicatesse, en plein essor en Afrique. Le dernier stage de Pone Vadex s'est déroulé sur place au Nigeria, sous les bons auspices de la Fédération camerounaise de catch, dont le président, Maître Emmanuel Ndo, est à côté de son athlète. De retour des États-Unis, où le Cameroun a remporté une ceinture mondiale avec Pina Humphrey, alias Buffalo. Je rappelle que sur 12 pays, seuls le Cameroun et le Libéria ont donné satisfaction aux critères de sélection pour ce combat africain de catch féminin.
Enfin, football, Samuel, les demi-finales de la Coupe du Cameroun se jouent ce samedi.
Oui, rendez-vous entre Colombe Dudja et Lobo et Aïssosa de Limbé, premier match. Ensuite, Aigle de la Ménoua face à Mintak Football Club. Deux chocs dignes d'intérêt pour dégager le champion, l'affiche de la finale de la Coupe du Cameroun 2024.
Rencontre à suivre, suspense en perspective. Merci Samuel.
Merci.
And that's where we end the 5-6, presented by Maureen Wanzi Wilai and Larissa Ngano, under the supervision of the editor-in-chief, Serge Foisgué. Thanks for listening and stay tuned to programs on the national station of the CRTV.